9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Après presque un mois d'absence du Ramadan, Maître Océane est heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous du samedi, mes camarades. Et quoi de mieux que de commencer le week-end avec cette voix douce, voire sensuelle de Maître Océane qui va, durant une petite heure, tenter de répondre à vos tracasseries juridiques. Et signalons que le Ramadan étant terminé depuis maintenant quelques jours, je peux enfin, mon cher Philippe, savourer un doux chocolat imaginaire que vous avez eu la gentillesse de me proposer. Mais la machine ne marche pas. Je veux tout de même que nos auditeurs sachent que vous êtes un homme bon. Enfin, le plus important, c'est que le retour sur le plateau se fait sans que la mauvaise haleine des invités du Ramadan me fouette le visage. Vous avez bien compris pourquoi Maître Serra n'était pas présent parmi vous tous les jours du Ramadan. Tous les jours, avec près de 5 invités, avec une haleine de cheval, c'était pas possible pour moi, mon cher Philippe. J'espère que vous ne m'en voulez pas de ne pas vous avoir accompagné quotidiennement. Mais rappelons que même si cette période au cours de laquelle on fait preuve de générosité et de bienveillance à l'égard des plus démunis est terminée, la misère, elle, ne s'arrête pas au bout de 30 jours. J'ai d'ailleurs, cette année, moi qui ne suis pas très causant, ce qui peut être surprenant pour un avocat, fait une rencontre qui m'a fait beaucoup de bien. À quelques dizaines de mètres de mon domicile, sous un pont, je voyais régulièrement un SDF pour lequel je dois confesser que je n'y prêtais pas beaucoup d'attention. Et puis, au premier jour du Ramadan, ma fille m'a proposé d'apporter un repas à cet homme. Je dois reconnaître que j'avais été pris au dépourvu. Apporter un repas, oui, pourquoi pas, mais comment faire ça? Me présenter et dire « Bonsoir monsieur, tenez, je vous ai apporté à manger ». Mon premier réflexe a été de répondre à ma fille « Bah non, imagine, il m'envoie chier ». Je peux lui donner de quoi s'acheter à manger, à la limite, ce à quoi ma fille me répond, tu peux aussi faire les deux. Cette réponse m'a tracassé toute la soirée. Moi, le père de famille qui doit, par principe, inculquer les bonnes valeurs à mes enfants, je recevais une leçon de ma fille qui m'incitait à m'impliquer davantage dans la vie des plus démunis. Le lendemain, je m'autorise à aller voir cet homme avec le plus jeune de mes enfants. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, me répond-il. Je me suis permis de vous apporter un peu à manger, une couverture. Moi qui appréhendais la rencontre, j'ai été agréablement surpris par sa réaction. Merci, monsieur, me dit-il, c'est gentil ce que vous faites. De retour à mon domicile et à l'heure de passer à table, mon fils, le plus jeune, me dit, mais le monsieur qu'on a vu tout à l'heure, il va manger tout seul dehors? Bah oui, je crois. Bah, t'aurais dû lui demander de venir manger avec nous. Je dois reconnaître que l'idée ne m'avait même pas effleuré l'esprit. Honte à moi. Il faut donc que mon fils de 9 ans me souffle l'idée. J'aurais dû oser poser la question à cette personne. Le surlendemain, je retourne voir cette personne. Bonsoir, je voudrais vous demander si vous souhaitez venir manger avec nous. J'habite pas loin. Si vous ne voulez pas, je peux comprendre. Hein, je vous ai apporté à manger. Non, merci monsieur, me dit-il. Vous savez, je suis pas très propre, je dois sentir mauvais. Pas faux, me dis-je. Mais si vous souhaitez, vous pourrez prendre une douche et je vous remettrai des vêtements. Non, c'est gentil, merci. Le jour suivant, je retourne le voir, même rituel, je lui demande s'il veut m'accompagner. Et là, timidement, il me répond, je veux bien si ça gêne pas. Et après une douche et des vêtements propres, voilà un homme transformé avec qui ma famille et moi-même avons eu le plaisir de partager quelques repas et d'apprendre un peu à le connaître. Mais je vois que le temps qui m'était imparti est écoulé. Je vous raconterai la suite une prochaine fois, car pour le moment, vous êtes invités à nous contacter au 01 53 48 3000 pour poser vos questions et missions sous le contrôle d'un être généreux et qui a la modestie, lui, de ne jamais en parler. Monsieur Philippe Robichon, à vous, maestro.
Mais c'est vrai que le mois de Ramadan est terminé et que la générosité ne doit pas s'arrêter au mois de Ramadan. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs dans l'islam au présent.
Ah bah, voyez.
Mais c'est vrai que pendant le mois de Ramadan, on est toujours plus sensible au fait de donner. Et alors, les gens sont très très généreux pendant le mois du Ramadan. Et puis hop, dès le lendemain, il y a quelque chose qui se passe.
C'est toute la difficulté. Et il arrive parfois de se poser la question, est-ce que c'est juste histoire de se donner bonne conscience? Parce que ça fait bien, c'est pendant le mois du Ramadan, mais... Encore une fois, hein, voilà, la misère, malheureusement, c'est pas, s'arrête pas au dernier jour du Ramadan. Donc, si on a pris cette habitude-là, je crois qu'il faut évidemment continuer à la garder et puis aider avec nos moyens les plus démunis d'entre nous.
Oui, et puis il y a aussi le fait de dire que les aumônes sont multipliées si vous faites des aumônes pendant le mois du Ramadan. Donc voilà, tout le monde est très sensible à son compteur.
Ben c'est exactement ça, c'est l'histoire de compteur.
Ouais. Bien, Maître Serran est en direct, donc vous pourrez poser vos questions juridiques et retrouver vos bonnes habitudes, dans un instant au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. On va parler de ce qu'on appelle, entre guillemets, l'enlèvement parental, Maître Serran. Alors, pourquoi on qualifie ça d'enlèvement?
Alors, on qualifie ça d'enlèvement parce que les gens avaient du mal à comprendre la réalité de la chose. Initialement, on ne parlait que de non-représentation d'enfants. Bon, alors je ne présente pas l'enfant, on s'est dit, d'accord, ben c'est pas, entre guillemets, si grave que ça. Et d'ailleurs, c'est même assez surprenant que le terme
c'était
enlèvement...
Pas, c'était pas présentation, c'était représentation.
Voilà, oui, c'est ouais, la non-représentation, ouais. C'est-à-dire que... J'ai moi la garde de l'enfant et puis l'autre parent donc a un droit de visite, donc j'ai pour obligation de permettre à cet autre parent de voir son ou ses enfants. Et si le parent vient à mon domicile pour dire bah, je suis venu chercher l'enfant et si je ne réponds pas ou si je refuse, c'est une non-représentation d'enfant. Mais non-représentation d'enfant, on a ce côté un peu, entre guillemets, presque léger en disant bon, bah, voilà, je lui ai pas remis l'enfant, c'est pas si grave que ça. Bah, si, c'est grave, sauf que. On avait besoin tout de même d'une qualification juridique un peu plus musclée qui puisse frapper les esprits. Et donc, on parle d'enlèvement parental. Et l'enlèvement parental donc concerne ces deux aspects. Le premier aspect que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que si vous devez exercer vos droits de visite et d'hébergement et que le parent refuse que vous puissiez l'exercer, donc vous pouvez et puis vous devez même aller au commissariat pour déposer plainte. Si vous êtes en possession d'une décision de justice, évidemment, il faut présenter cette décision de justice pour que les faits soient véritablement qualifiés. Donc il ne faut pas hésiter à le faire. Souvent, on a parfois des parents qui viennent nous dire, alors, j'allais dire madame, parce que, encore une fois, hein, dans 90% des cas, c'est la mère qui bénéficie de la résidence des enfants et le père qui bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement. Et donc, souvent, le père nous dit, je me suis présenté, mais la mère voulait pas, je suis retourné une deuxième fois, voulait pas, donc je laisse tomber. Non, la difficulté, c'est que si vous ne faites pas acter le refus de la part du parent, ensuite, faut pas venir vous plaindre.
Mais à partir de quel moment vous allez déposer plainte?
À partir du premier jour où vous devez exercer votre droit et que la mère ou le père, si c'est le père qui a la résidence des enfants, en tout cas, ou que l'autre parent refuse de vous remettre les enfants. C'est-à-dire, faut pas attendre deux fois, trois fois, quatre fois. À partir du moment où la décision dit que l'un des parents doit exercer son droit et que l'autre parent refuse, à ce moment-là, il faut aller au commissariat. Alors, je sais que c'est toujours pénible de se rendre au commissariat, puisque vous attendez parfois des heures, et parfois vous tombez même sur des policiers qui vous disent, écoutez, revenez lundi. Donc, c'est toujours compliqué et pénible, mais c'est ce qui va vous permettre ensuite de pouvoir invoquer quelque chose auprès du magistrat. Et le fait simplement demain de dire au magistrat bah oui mais je me suis présenté et puis le parent a refusé de me laisser l'enfant, le juge vous dira est-ce que vous avez déposé plainte, et c'est la seule possibilité pour que ce droit qui est d'abord la résultante d'un jugement civil se transforme ensuite en aspect pénal, puisqu'ensuite ça ne relève pas exclusivement du juge aux affaires familiales, mais du procureur de la République. Donc là, on bascule au pénal. Et donc ça, faut le faire, parce que encore une fois, si vous le faites pas, vous allez passer à côté de vos droits. Et puis, l'enlèvement parental, c'est aussi un aspect beaucoup plus grave. Alors qu'on, pour être tout à fait honnête, qu'on voit de moins en moins. Parce que très souvent, et en particulier quand au sein du couple, vous avez une personne qui est de nationalité étrangère ou de double nationalité, la crainte de l'autre parent, souvent, c'est de nous dire « Maître, est-ce qu'on peut demander au juge aux affaires familiales une interdiction de sortie du territoire ?» Car ma crainte, c'est que le père, la mère, peu importe, emmène l'enfant au pays d'origine et puis revienne sans l'enfant. Bon... c'est déjà arrivé. Dire que ça ne s'est jamais produit serait exagéré, mais j'ai souvent, encore une fois, tendance à répondre que je connais beaucoup plus de personnes qui souhaitent venir sur le territoire français que l'inverse. Parce que vous imaginez bien que le parent qui, entre guillemets, s'amuserait à prendre l'enfant, alors pour les vacances, pourquoi pas, mais qui dirait, bah, dans ce cas-là, moi, je reviens plus sur le territoire français, il serait d'abord totalement blacklisté du territoire. C'est-à-dire que demain, après-demain, il met le pied sur le territoire français, il serait tout simplement interpellé. Et puis, il perdrait tout simplement la garde de son enfant. Il faut pas oublier, il faut toujours rappeler que toutes les décisions qui concernent les enfants sont toujours provisoires. C'est-à-dire que si vous vous comportez mal, si vous ne respectez pas votre droit de visite et d'hébergement, que vous soyez le parent qui est la résidence et qui refuse de remettre l'enfant à l'autre parent ou le parent qui exerce son droit et qui ne rend pas l'enfant en temps et en heure, on peut toujours demander au juge aux affaires familiales de vous sucrer, tout simplement, votre droit de garde ou votre droit de visite et d'hébergement. Donc, faut faire attention à ça. Donc, c'est vrai que on n'a pas beaucoup de dossiers de cette nature, mais les magistrats restent tout de même prudents. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette interdiction de sortie du territoire qui est prononcée quand elle est demandée.
Mais quand on est à l'intérieur de l'espace Schengen, de toute façon, l'enfant peut circuler facilement.
On peut circuler.
Si vous devez prendre d'avion et qu'effectivement vous devez passer une frontière qui est contrôlée, bon, c'est compliqué. Mais si vous êtes à l'intérieur de l'espace Schengen et que vous êtes en voiture ou en train.
C'est ce qu'on leur dit. C'est-à-dire qu'en vérité. Alors oui, la mesure juridique existe. Mais en vérité, concrètement, comment est-ce qu'on peut contraindre un parent, comme vous dites, à ne pas aller en Espagne, en Italie, en Grèce, enfin peu importe. Donc c'est vrai qu'il y a cet aspect-là. Pour autant, c'est aux parents, entre guillemets, lorsqu'il y a une mesure de cette nature qui est prononcée par le juge aux affaires familiales, c'est aux parents d'établir ou de prouver que l'autre parent s'est tout de même rendu, encore une fois, en Espagne ou en Italie. Oui, il n'a pas pris l'avion, mais il n'a pas respecté la décision. Donc, en règle générale, j'allais presque dire, il suffit d'interroger l'enfant en disant « t'étais où ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Donc si l'enfant a un certain âge, il peut vous répondre. Maintenant, si on parle d'un gamin et que le père dit « bah non, mais moi je suis resté sur le territoire français », c'est très difficile de le prouver. Donc c'est vrai que cette mesure concerne davantage les personnes qui, j'allais presque dire, qui sont à minima de l'autre côté de la Méditerranée. On est en dehors de l'espace Schengen. Donc là, oui, il peut y avoir une incidence intéressante. Sinon, le parent qui est de mauvaise foi, oui, il peut emmener ses enfants en vacances en Espagne, en Italie, sans que, qu'il y ait la moindre contrainte au niveau des douanes. Et puis, il y a l'autre aspect. Il y a l'aspect où, lorsque vous avez l'impression que l'un des parents vous a véritablement menacé de prendre l'enfant, et puis souvent on l'entend en disant bah, « je vais le prendre, je vais rentrer au pays et je reviendrai plus ». Alors, parfois c'est dit comme ça sous le coup de l'énervement, donc on n'est pas obligé de prendre tout ça pour argent comptant, mais malheureusement parfois ça peut, encore une fois, même si c'est assez rarissime, ça peut arriver. Vous avez toujours une option, et c'est une option qui relève de la compétence du préfet. Il faut aller faire une déclaration d'opposition à sortie du territoire au préfet. Ce qui est important, c'est de savoir que cette opposition n'est valable que 15 jours. Donc c'est très court, et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on est dans le cadre d'une mesure d'urgence. Donc je vais signaler tout de suite à la préfecture que qu'il y a ou qu'il y aurait une menace qui risque de tomber là immédiatement, et puis on va vous laisser un délai de 15 jours pour aller voir le juge aux affaires familiales et demander au juge aux affaires familiales de prendre cette fois-ci une décision pérenne. Mais si au bout de 15 jours vous ne confirmez pas cette déclaration auprès des autorités préfectorales, la mesure de la préfecture est caduque. C'est-à-dire qu'ensuite, au bout d'un moment, au bout de 15 jours, si vous ne présentez pas un jugement rendu par le juge aux affaires familiales, ben on considère que votre demande n'a plus lieu d'être. Donc il faut tout de même faire attention à ça. Et puis souvent, on a l'un des parents qui nous dit « mais j'ai gardé mon enfant parce que quand je pose la question à mon fils, à ma fille, à mes enfants, ben, ils me disent « bah oui, papa, oui, maman, on est bien avec toi, on n'a pas envie d'aller avec papa ou maman ». Ça peut arriver, évidemment. C'est encore une fois, c'est comme ça. Et d'abord, on demande à l'autre parent de ne jamais en vouloir à ses enfants quand ils tiennent ce discours-là. Mais même si votre enfant insiste, même si votre enfant pleure pour dire « je veux pas aller voir papa » ou « je veux pas aller voir maman », sachez que vous n'êtes pas protégé pour autant de ce non-respect de la décision. Mmh. Donc l'excuse qui consisterait à dire mais je voulais bien te remettre les enfants, je voulais bien te rapporter les enfants, mais ils ont pas voulu, ils préfèrent rester avec moi, ça n'a pas lieu d'être. Donc il faut faire attention à ça. Quand on a une décision de justice qui a été rendue, il faut tout simplement l'appliquer à la lettre, ou alors vous allez vous mettre en porte-à-faux et vous allez vous mettre en difficulté. Et je peux vous assurer, puisque je l'ai vécu il y a pas tellement longtemps, que les magistrats n'aiment pas ça. C'est-à-dire qu'on peut toujours jouer sur les nerfs de l'autre parent, faire en sorte de ne pas le ramener, parce que le temps que l'autre parent aille déposer plainte, le temps que vous soyez convoqué, ça prend parfois des mois. Mais au bout d'un moment, lorsque vous vous retrouvez devant le juge aux affaires familiales, il y a intérêt d'expliquer pourquoi vous êtes mal comporté.
Et si vous avez des questions à poser à Maître Serane, c'est très simple. Vous composez le 01 53 48 3000. L'émission est en direct. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, et Maître Serane répondra à vos questions en direct dans un instant au standard au 01 53 48 3000. Un peu de patience, hein. C'est vrai qu'il faut patienter, Maître Serane.
C'est vrai.
C'est quelqu'un qui se laisse désirer. On parlait de cet enlèvement, l'enlèvement familial tout à l'heure, Maître Serane. Finalement, bon, ça a toujours plus ou moins existé. Est-ce qu'un parent peut vraiment s'opposer que son enfant quitte le territoire ? Est-ce que l'autre parent peut s'opposer ? Après tout, si c'est pas sa semaine de garde.
Alors, il faut quand même des arguments sérieux. C'est-à-dire que, en règle générale, la justice intervient très souvent après coup. C'est à partir du moment où il y a eu un incident, c'est-à-dire qu'on rend une décision classique, encore une fois, un week-end sur deux, la moitié des petites et des grandes vacances. Mais c'est très souvent à partir du moment où il y a eu un incident que l'autre parent peut aller se plaindre auprès du magistrat pour dire, ben voilà, constater, voici ce qui s'est...
Mais s'il n'y a pas d'incident, l'autre parent peut emmener l'enfant
mais
où
bien
il veut,
sûr,
en fait.
Souvent on l'entend ça aussi en disant, maître, est-ce qu'on peut demander une interdiction de sortie du territoire? Bon, encore une fois, ce que je vous disais, quand les deux parents sont en France depuis X années, ou parfois ils sont nés lorsqu'ils travaillent sur le territoire français, la probabilité pour qu'ils laissent l'enfant au pays, elle est quasi infinie. Et puis moi je peux comprendre qu'un parent me dise j'ai envie d'emmener mon enfant voir mon pays ou voir ses grands-parents parce qu'ils sont au pays, et c'est légitime. Donc après voilà, ça c'est de l'animosité parfois et de la rancœur entre des ex. Mais si vous n'avez pas d'arguments sérieux en la matière, juste s'y opposer pour s'y opposer. Non, il y a des magistrats qui considèrent que ça n'a pas lieu d'être. Et puis, pour être tout à fait honnête, très souvent, ce sont les maires qui s'opposent à ça. Alors, pour des craintes justifiées ou pas, mais encore une fois, dans la très très grande majorité des cas, c'est pas justifié. On a parfois des maires qui ont du mal à comprendre que le père peut, ce qui me semble moi, tout à fait légitime, s'intéresser à son enfant, que le père va pouvoir s'occuper de son enfant, il va pouvoir lui préparer à manger, il va pouvoir le changer, il va pouvoir faire en sorte que l'enfant puisse aller se laver. Donc c'est vrai qu'on a parfois cet aspect-là, et on a des mamans possessives, donc il faut leur expliquer un peu qu'elle doit faire aussi cet effort.
Alors Ayette est avec nous, Maître Serane, 01 53 48 3000. Ayette, bienvenue.
Merci, bonjour à tous, bonjour maître.
Attendez, on va juste mettre un peu de son, comme ça maître Serane va pouvoir profiter de votre voix, Ayette. Voilà, c'est parfait.
Oui, bonjour maître, bonjour à tous.
Bonjour Ayette.
Donc moi ma question c'est, je me suis mariée il y a 3 ans en Algérie, donc j'ai fait ma déclaration de mariage à Nantes. Je voulais juste savoir, est-ce que je pouvais faire une annulation de mariage ou pas?
Alors, il faut savoir que l'annulation de mariage, c'est vraiment une procédure très particulière. L'annulation de mariage, contrairement au divorce, le divorce, c'est-à-dire qu'on se marie et puis on se rend compte que monsieur, madame, peu importe, a eu un mauvais comportement et donc on demande au magistrat de prononcer le divorce. L'annulation de mariage, ça laisse entendre que monsieur vous aurait menti au point que si vous avez dit toute la vérité, bah, vous n'auriez pas décidé de vous marier avec lui. C'est-à-dire que il vous a menti, j'allais presque dire, sur toute la ligne. Alors très souvent...
Il était marié.
Ah, il était marié? Ah,
oui, enfin, il est toujours avec son épouse.
Ouais.
Il vivait avec elle, donc il a divorcé administrativement avec elle, mais il vivait toujours chez elle. Enfin,
d'accord, c'est-à-dire qu'officiellement, monsieur était tout de même divorcé.
Officiellement, effectivement, il était divorcé.
D'accord.
On s'est marié.
Bah voilà, donc.
Il vit avec son épouse.
Ouais.
D'où le couac de mon annulation de mariage.
Alors, c'est moins. Une annulation de mariage qu'une condition de divorce, puisque, encore une fois, à partir du moment où monsieur officiellement était divorcé de la première épouse, le fondement juridique sur l'annulation de mariage va être très difficile à établir, et les magistrats sont très sensibles à ça. Vous savez, on a parfois des procédures d'annulation de mariage qui durent parfois 2 ans, et au bout de 2 ans, le magistrat vous dit « bah non, maître, il n'y a pas suffisamment d'éléments ». Donc, invitez votre client à engager une procédure de divorce. Donc, résultat, on a perdu déjà au moins 2 ans. Donc, compte tenu de la situation, madame, et si vous pouvez évidemment établir, il faut faire attention puisque ce qu'on appelle la charge de la preuve vous incombe, c'est-à-dire c'est à vous d'apporter les éléments qui prouvent que monsieur continue ou a continué de vivre chez son ex, donc c'est peut-être pas si simple que ça, mais moi je vous inviterais à engager plus une procédure de divorce qu'une procédure d'annulation de mariage.
D'accord.
Mais ça, vous pouvez l'établir et le prouver, madame ?
Normalement, oui.
Voilà, alors, vous avez bien compris que c'est pas juste...
Il a bien des preuves.
Ouais, voilà.
Non, non, c'est...
Ça, c'est important parce que la preuve, souvent, on nous dit, bah oui, mais on me l'a dit ou je l'ai vu. Non, oui, sauf que c'est pas suffisant. Voilà.
C'est ça, on est d'accord. Ok. Bon, bah merci beaucoup pour votre retour.
Merci à vous, Hayat.
Merci, Hayat.
Merci bien. Au revoir. Bon après-midi à vous.
Merci. Merci. Bon week-end. Amina est avec nous au 01 53 48 30. C'est vrai que c'est un long week-end, hein, ce week-end. C'est un week-end prolongé, puisque le lundi,
ah bah oui,
c'est lundi 1er mai.
Oui, c'est vrai. Manif, hein, faut pas oublier, manif.
Ah, avec votre fait-tout, votre casserole ?
Ah bah oui.
D'accord. Bon, on va à Toulouse avec Amina, qui peut-être manifestera, on verra. Amina, bienvenue.
Bonjour, je suis enchantée de pouvoir enfin vous avoir au téléphone. Vous êtes une radio superbe, je vous ai écouté tout le mois de Ramadan, j'ai mis le Allahu Akbar vers la coupure du jeûne à fond dans le quartier. Donc,
ah bah ça va nous faire des amis, on va avoir beaucoup d'amis.
Je l'ai muté à froid, mais alors
oh, tout le monde.
Donc, je vous adore, je vous écoute tout le temps. Je suis tout le temps dans ma cuisine, donc je vous écoute tout le temps. Et je me suis dit pourquoi pas appeler, car j'ai un petit souci oui. Par rapport à mes enfants. Voilà, mes enfants sont restés en Algérie. J'ai 4 enfants. Après un divorce très douloureux, j'étais française, je vivais à Paris, j'avais mon travail, j'avais mes parents, ma famille, tout ce qu'il fallait. Donc mon ex-époux m'a proposé le mariage, donc je suis partie en Algérie. Et là, ils m'ont complètement tout appris. Je n'avais pas le droit de sortir, je n'avais pas le droit de travailler, je m'occupais de lui, de ses parents, de la maison. J'ai fait en tout 5 enfants. Il y en a un qui est décédé, à Péarmou. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, dès qu'il a eu la nationalité française, il a changé du tout au tout. Il a changé, il a commencé à faire le tour du monde, à me laisser tout seul avec les enfants. J'avais des enfants en bas âge, des jumeaux, donc c'était vraiment très difficile pour moi. Ensuite, je crois qu'il avait une maîtresse. Et quand j'ai découvert ça, il a commencé à me battre. Il battait même des enfants parce que les enfants venaient se mettre entre nous quoi, pour me protéger. Le dernier avait à peine 2 ans et demi. Mon père était encore en vie européen, il était à un abat, donc moi je vivais à un abat, il était à un abat, donc à chaque fois qu'il me battait, j'appelais au secours mon père. Et la dernière fois, c'était en 2018, la dernière fois que je suis sortie de la maison, c'est mon père qui m'a fait sortir de la maison avec juste un sac à main. Comme il ne m'a jamais laissé travailler, donc je n'avais aucun revenu. Donc, j'ai vécu un petit peu à droite, un petit peu à gauche, des dépenses, des amis, tout ça. Et j'ai demandé le divorce. En fait, chez nous, ça s'appelle le choleur. Le choleur, c'est la femme qui répudie son mari. Et il n'a pas du tout aimé que je fasse ça. Et du coup, comme là-bas, tout s'achète, les juges s'achètent, les avocats s'achètent, tout s'achète, donc il a pu avoir la garde de ses enfants. Voilà. Donc, il m'a pris la garde de mes quatre enfants. Moi, je me suis remariée au bout de 2 ans. Là, je viens de prendre la... Je suis restée 4 ans avec eux là-bas, aller voir le week-end. Des fois, il est ramené, des fois, il ne ramenait pas. Quand il a appris qu'il allait me marier, il ne voulait plus me ramener, par jalousie. Et là, j'ai pris la décision de partir. Ma fille aînée m'a conseillé de partir car je ne pouvais pas vivre là-bas. Et que, d'ailleurs, je n'ai pas l'habitude de vivre en Algérie ni de travailler là-bas. J'ai toujours vécu ici, j'ai toujours travaillé ici. J'étais fonctionnaire à la Banque Postale, j'ai tout plaqué pour lui. Et en fin de compte, il m'a dit « Je veux plus de toi, soit tu signes pour la deuxième femme, soit tu dégages. » Donc mon père m'a fait partir, j'ai laissé les 4 enfants. Ça a été une déchirure terrible. J'ai passé 2 ans complètement détruit.
Mais madame, les enfants, ils étaient sur le territoire français à un moment quand même ou pas?
Non.
Jamais.
J'ai juste accouché des jumeaux ici. Ensuite, je suis partie en Algérie. Ils sont français, mes enfants.
Pourquoi vous n'avez pas engagé une procédure sur le territoire français, madame?
Ici?
Oui.
Justement, c'est pour ça que j'appelle. Je veux savoir si j'ai le droit.
Là, la difficulté, c'est que je crois comprendre que vous êtes officiellement séparés. Est-ce que la séparation qui a été prononcée pays apparaît sur les actes d'état civil?
Ah oui, tout à fait.
Oui, c'est plié. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a déjà une décision d'une autorité étrangère qui prononce le divorce et que ce divorce a été transcrit, c'est-à-dire qu'on considère que toutes les conditions ont été réunies pour reconnaître la validité de ce jugement, donc il est désormais valable sur le territoire français. Donc bien évidemment, vous ne pouvez pas engager une nouvelle procédure sur le territoire français. Par contre, rien vous interdit ou vous interdirait de saisir un juge aux affaires familiales pour demander à ce que le droit de résidence, le droit de visite et d'hébergement éventuellement soit revu. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est que là, si j'ai tout compris, on est bien d'accord, les enfants sont toujours au pays.
Oui, ils sont toujours au pays et il a épousé sa maîtresse et ils vivent avec elle.
Oui, donc ça me semble... alors pourquoi je vous dis ça? Parce que la difficulté, c'est que si les enfants sont au pays, si monsieur est également au pays, vous comprenez bien que même si un juge français rend une décision qui dit « Attendez, monsieur, madame doit exercer son droit de visite et d'hébergement », ça va être quand même difficilement applicable au pays, cette décision.
Oui, c'est ça le problème, c'est que le jour où j'ai signé pour qu'il ait la garde, vu que moi je n'avais aucun sou pour les faire vivre, la juge m'a bien fait comprendre que je n'avais pas le droit d'emmener les enfants avec moi en France.
Parce que vous avez évoqué les juges et les avocats qui s'achètent. Ça existe, mais ça existe. C'est pas spécifique à l'Algérie, au Maroc ou à la Tunisie. Pour autant, j'ai examiné de nombreuses décisions rendues par les autorités.
Ceci dit, en France, c'est plus rare quand même.
Oui, bien sûr, c'est plus rare. Mais laisser entendre qu'une décision, parce qu'elle est favorable à monsieur, est forcément la résultante d'un dessous de table. C'est un peu facile. Les décisions qui sont rendues par les magistrats du pays sont des décisions qui sont, encore une fois, dans la très très grande majorité, qui sont motivées. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est comme en France. C'est-à-dire dans la grande majorité des cas, même lorsque c'est monsieur qui engage la procédure de divorce, madame bénéficie de son droit de de son droit de garde et monsieur d'un droit de visite et d'hébergement. Maintenant, lorsqu'un magistrat accorde la résidence des enfants à monsieur, c'est que, alors a priori, puisque je n'ai pas les détails de l'affaire, c'est qu'a priori, il avait des éléments qui, vous concernant en tout cas, n'étaient pas forcément en votre faveur.
Alors on verra dans un instant, Maître Serran, ce qu'il est possible aujourd'hui de faire hein, d'un point de vue juridique. Si vous avez des questions à poser à Maître Serran, vous composez le 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, Maître Serran répond à vos questions 01 53 48 3000. Nous avons Mohamed qui est avec nous, Maître Serran. Mohamed, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour Mohamed.
Bonjour Mohamed.
Monsieur le maître. J'ai une question par rapport à la visite de mon fils. Récemment, j'avais le jugement provisoire par rapport à la visite de mon fils. Et j'ai la parentalité 50% pour moi et 50% pour elle. Par exemple, ma question sur le jugement, le juge des affaires familiales, il dit en rappelant sur le jugement que l'enfant, à chaque fois où je voulais le voir à la visite, la sauvegarde, il faut venir avec son carnet de santé. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le carnet. Quand j'ai demandé à la maître, à la sauvegarde, elle demande, parce que par rapport au jugement, elle n'a pas donné le carnet de santé par rapport au jugement. Mon ex, elle dit que elle a demandé à son avocat que c'est pas la peine de ramener le carnet de santé de mon fils à chaque fois au niveau de la loi de visite, où j'ai fait de la loi de visite. Mais sur le jugement, le juge, il a dit que à chaque fois l'enfant, le parent, il voit son fils, il faut que l'enfant il est avec son carnet de santé.
Oui.
Est-ce qu'il y a une procédure à déclarer ou pas?
Alors, il n'y a pas de procédure particulière. C'est-à-dire que, alors d'abord, je doute que ce soit véritablement l'avocat de madame qui lui ait dit « remettez pas le carnet de santé ». Vous savez, c'est prévu par la décision, mais ça semble juste évident. C'est-à-dire que si l'enfant est avec vous, et puis pour une raison X ou Y, il a besoin d'être hospitalisé, il se passe quelque chose, c'est normal que l'hôpital, que le médecin connaissent les antécédents, la situation médicale de l'enfant. Donc oui, quand on laisse l'enfant partir avec son père ou avec sa mère, il vaut mieux que l'enfant soit également accompagné de son carnet de santé. Donc si c'est dans la décision, monsieur, c'est pas à l'avocat de madame de dire vous lui remettez pas. Donc quand c'est comme ça, il y a rien qui vous
les deux.
Ouais, mais ça, encore une fois, mais ça c'est normal. Je suis un policier, si demain je vous contrôle et je vous demande qui est cet enfant et puis vous me dites c'est le vôtre, je ne suis pas obligé de vous croire sur parole, vous voyez, donc c'est normal qu'on demande aussi la pièce d'identité de l'enfant. Donc c'est vrai que très souvent on a des personnes, et je le redis encore une fois, même si c'est pas une étude statistique là, ce que je rapporte, mais très souvent les mères refusent de laisser le carnet de santé, la pièce d'identité, alors pour des raisons qui m'échappent, ou parfois on me dit bah oui, mais dans ce cas le père pourra encore une fois prendre l'enfant, traverser les frontières. Non, c'est indispensable et c'est normal. La pièce d'identité, quand même, encore une fois, si vous êtes contrôlé, va me permettre, moi, autorité policière, administrative, d'être certain que cet enfant est bien le vôtre. Donc, oui, si l'enfant est avec vous, la pièce d'identité et le carnet de santé, et puis lorsque vous ramenez l'enfant chez la mère, eh ben, vous restituez les documents. Enfin, voyez, c'est d'accord. Et parfois les parents, en tout cas l'un des parents, complique la relation et complique la vie à cause de ça, puisqu'il remet l'enfant, mais il remet pas les documents qui vont avec. Alors, vous pouvez bien évidemment revenir devant le juge aux affaires familiales, et on a parfois des magistrats. Alors, d'abord, faut le faire constater, c'est-à-dire qu'il faut au minimum une main courante pour dire attendez, j'ai récupéré l'enfant, mais j'ai toujours pas les documents prévus par le jugement. Et avec ça, vous pouvez retourner devant le juge aux affaires familiales, et on a parfois des juges aux affaires familiales qui prévoient une contrainte financière. C'est-à-dire que, il dit, si la mère ou si le père ne remet pas les documents avec l'enfant, il pourra être condamné, alors je dis n'importe quoi, à 200 € d'amende ou à 300 € parce qu'il n'a pas respecté cette décision. Mais faut pas hésiter à le faire. Et je le redis, très souvent, c'est sur ce genre, j'allais dire, de détails, parce qu'en vérité, ça reste un détail. C'est sur ce genre de détails que les parents se prennent la tête et que ça complique la vie de tout le monde. Et encore une fois, il faut le savoir, et en particulier la vie de l'enfant. Et en particulier quand l'enfant est en âge de comprendre un peu ce qui se passe, voir les parents s'engueuler pour une histoire de pièce d'identité ou de carnet de santé, c'est quand même assez triste. Mais vous êtes dans votre bon droit, si c'est prévu par le jugement. C'est le jugement qui doit s'appliquer à la lettre.
Voilà.
Vous avez un avocat ou pas, monsieur ?
Oui, bien sûr.
J'ai mon avocat. Il faudrait dans ce cas-là aussi, c'est aussi le rôle de votre avocat, de se rapprocher de l'avocat de madame et de rappeler l'évidence en disant, chers confrères ou chères consoeurs, voilà, votre cliente refuse de, je vous informe, encore une fois, que si la décision n'est pas respectée à la lettre, je reviendrai devant le juge aux affaires familiales. Mais il faut mettre, entre guillemets, un petit coup de pression dans ce sens-là.
D'accord.
Voilà, Mohamed.
D'accord. Merci beaucoup, monsieur.
Merci, Mohamed. Et on termine avec Samia, qui nous appelle de Paris au 01 53 48 3000. Bienvenue, Samia.
Bonjour, monsieur Philippe Robichon.
Bonjour, Samia.
Et bonjour, maître Serran.
Bonjour, Samia.
Et bonjour à toute votre équipe et à tous les auditeurs de la FM. Et merci beaucoup, monsieur Philippe, pour toutes les émissions extraordinaires que vous présentez et que j'essaye de ne pas rater.
Bien. Bah, écoutez, ça fait plaisir, Samia. Et ça me fait plaisir que vous me le disiez, en plus.
Voilà. C'est la vérité. Je suis une auditrice fidèle et anonyme. J'appelle pas, mais je vous suis... excusez-moi, j'ai une question à être sérane. Au fait, bon, j'essaie de ne pas entrer dans les détails. C'est au sujet d'un héritage d'une terre en Algérie que mon frère, qui est binational, qui s'est chargé de sa vente. Et comme j'ai trois frères, donc c'était en 2020, les trois frères ont pris leur part, mais nous, ici, depuis 2020, aucune... c'est le silence, il y a ni son ni image, on ne peut même pas lui laisser un message dans sa messagerie. Il a coupé tout contact avec nous, il a coupé les ponts, et voilà, on n'a pas de nouvelles, et j'ai deux sœurs qui ne travaillent pas, une divorcée avec des enfants, elle a eu une pathologie très très lourde, elle avait besoin des médicaments d'ici. Heureusement que j'ai mes amis qui se sont mobilisés pour le lui envoyer. Heureusement qu'il coûtait très cher. Hein. Et heureusement qu'il y avait l'intervention d'un autre médecin en Algérie qui a dit que c'était pas la peine ce médicament, qu'il pouvait régler ça sans ce médicament. Et effectivement, alhamdoulilah, elle va très très bien. Mais voilà, comment je voudrais vous demander, maître Serran, s'il vous plaît. C'est-à-dire une façon, comment avoir notre part, comment lui demander.
Madame, il n'y a pas mille options. C'est-à-dire que si c'est une succession qui se règle au pays, ça relève exclusivement de la compétence des tribunaux au pays.
C'est-à-dire non, que... sans passer, monsieur Serran, je voudrais sans passer par
la justice. Je vous réponds, madame. Vous avez bien compris que c'est sans passer par la voie judiciaire, c'est la bonne volonté des uns et des autres. Et manifestement, votre frère n'est pas ou ne serait pas de bonne volonté. Donc, quand
il occupe un poste très important ici, il n'est pas dans le besoin.
Oui, mais voilà. Après, voilà, parfois, malheureusement, j'allais presque dire, ça ne s'explique pas, mais la difficulté, c'est que si une succession ne peut pas se régler
Vous avez une solution, maître Serran.
Oui, mais judiciaire.
Ah oui, d'accord.
Mais madame me dit, en dehors de ça...
Mais vous avez d'autres solutions.
Alors, il y a l'autre solution qui consisterait à
envoyer
communiquer
Nico.
Voilà, les coordonnées de Nico pour aller lui casser les deux pouces, peut-être. Mais on sort de la période de Ramadan.
C'est trop tôt.
Voilà, justement. Mais donc c'est pour ça, je ne sais pas proposer cette solution intéressante et radicale. Mais en vérité, madame, la difficulté, c'est que, encore une fois, une succession, ça peut se régler à l'amiable, tranquillement. Voilà, on se met tous autour d'une table et puis, quand il y a nécessité d'un notaire, on formalise notre accord devant notaire. Maintenant.
Mais lui, il s'est chargé de sa vente, il a donné.
J'entends bien.
Après, ils se sont partagés, mais nous, ça y est, c'est fait. Le partage a été fait.
Alors, donc, ça veut dire, un, que vous vous réveillez un peu tard, mais indépendamment de ça, madame, que le partage ait été fait ou pas, ça relève.
Pardon ?
Que le partage.
Oui.
Ait été fait ou pas, ça relève de la compétence du lieu où la succession s'est ouverte. Est-ce qu'on parle bien d'une succession au pays ?
Oui, Maître Serra, ils ne sont pas saignés par les notaires, ni rien du tout. Ils ont,
est-ce que vous pouvez juste répondre à ma question, parce que ça va couper. Est-ce que la succession s'est faite au pays ? C'est ma question. Est-ce que c'est en Algérie ?
C'est en Algérie, oui.
Voilà. Donc, alors pourquoi je vous pose la question ? Pour voir quelle est l'autorité compétente. À partir du moment où vous considérez que vous avez été lésé dans la succession, que le bien a été vendu...
Beaucoup plus pour mes soeurs que pour moi.
Mais oui.
Que le bien a été vendu et que il y a eu un partage entre votre frère et le reste de la famille, sans vous, sans vos soeurs. Il n'y a que le juge algérien qui est compétent pour... éventuellement traiter le dossier et condamner monsieur à vous remettre votre part à vous et à vos sœurs. Mais
là,
ça relève...
Là, en France, on ne peut rien faire.
Non, en France, il n'y a pas de procédure de cette nature. Ça relève exclusivement du juge algérien.
Voilà, Samia, ce qu'on pouvait vous dire ce matin. Notez le numéro de téléphone de Maître Serran. Maître Serran, rapidement.
Je suis joignable au 06 62 58 59 64. 06 62 58, 59, 64.
Notez que vous répondez au téléphone de samedi pour tous ceux qui voudraient vous joindre dans un instant. C'est l'islam au présent avec l'imam Youssef Hachmaoui qui sera là dans un instant.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.